Rapport annuel 2023 à 2024. Table des matières. PDF Acron. Lire le PDF. 819 kilo-octets. Message de la présidente et première dirigeante. Se transformer pour mieux servir les Canadiens. L'exercice 2023 à 2024 a arrêté une période de transformation et de renouveau à l'Office des Transports du Canada, Office. Au cours des dernières années, l'Office a dû s'adapter à des changements importants à son contexte opérationnel, et plus particulièrement dans chacun de ses trois principaux champs de responsabilité, veiller à l'efficacité du système de transport national. Offrir aux passagers aériens un régime de protection du consommateur et protéger le droit fondamental des personnes handicapées à un réseau de transport accessible. La hausse considérable du nombre de demandes présentées à l'Office a fait ressortir l'ampleur de tels changements. Depuis des demandes de règlement de différends sur le niveau de service ou encore pour la construction de lignes de chemin de fer. En passant par les plaintes en matière d'accessibilité ou de protection des passagers aériens, l'Office a constaté que nombre de ses principales fonctions ont été davantage sollicitées. En raison des demandes changeantes, l'Office a reçu, au début de 2023, une enveloppe de 75,9 millions de dollars sur 3 ans. Principalement pour l'aider à traiter les plaintes de passagers aériens et à s'acquitter efficacement de son mandat envers les Canadiens. Ensuite, le 22 juin 2023, le Parlement a adopté la loi d'exécution du budget pour accorder à l'Office la capacité de simplifier son processus de règlement des plaintes relatives au transport aérien, de prendre un nouveau règlement plus solide pour protéger les passagers. D'entamer un projet pilote visant à agrandir temporairement les distances d'interconnexion, et de commencer le processus de recouvrement de coûts. En conséquence de ce contexte changeant, du recours accru aux services de l'Office, et des outils reçus du Parlement au cours des dernières années, l'Office a beaucoup investi dans ses processus, ses systèmes et ses données, et dans sa manière de s'acquitter de son mandat envers les Canadiens. Ces réalisations se révèlent par l'inauguration réussie de son bureau de règlement des plaintes, bureau, relatif au transport aérien. En réponse à la loi d'exécution du budget, l'Office a complètement refondu et mis en œuvre, en seulement 3 mois. Un nouveau processus simplifié de traitement des plaintes qu'il a lancé officiellement le 30 septembre 2023. Le processus a été conçu afin d'être plus simple, plus rapide et plus rentable, avec des échéanciers clairs et une plus grande capacité à tirer parti de l'automatisation. À la fin de l'exercice, le nouveau bureau comptait déjà 112 agents de règlement, qui ont été embauchés et formés en diverses cohortes. À eux, ils ont traité environ 11 000 plaintes. Pour mettre ce résultat en perspective, un total de 11 158 cas ont été traités pour l'ensemble de l'exercice 2022 à 2023. Ces résultats préliminaires sont prometteurs. Et nous prévoyons que le processus sera de plus en plus performant avec l'expérience acquise et grâce à l'adoption de nouvelles technologies et de nouveaux outils. Toutefois, il est également important de reconnaître que l'arriéré de plaintes a continué d'augmenter en 2023 à 2024, pour atteindre 71 109 à la fin de la période. Malheureusement, l'Office devrait continuer de recevoir un volume de plaintes élevé et difficile à prévoir. Au cours de l'exercice, il a reçu un record de 43 549 plaintes, soit la deuxième année d'affilée au-dessus de 40 000. Ce chiffre représente presque le double de la quantité reçue en 2021 à 2022. L'Office reste déterminé à continuellement améliorer ses processus et à fermer le plus de cas possible avec les ressources qu'il a obtenues. En même temps, les récentes modifications à des dispositions législatives ont également été apportées d'une part pour renforcer le régime de protection des passagers aériens, rendant l'indemnisation obligatoire pour toutes les perturbations de vol, sauf dans des circonstances exceptionnelles que l'Office définira dans le règlement et, d'autre part, pour faire reposer le fardeau de la preuve sur les compagnies aériennes. À cette fin, une première phase de consultation sur les modifications proposées au règlement sur la protection des passagers aériens, RPPA, a eu lieu à l'été 2023, et le processus de réglementation se poursuivra cette année. Selon ces mêmes modifications législatives, un régime sera également établi afin de recouvrer, auprès des compagnies aériennes, les coûts du traitement des plaintes admissibles de passagers aériens. L'Office entamera le processus par des consultations publiques dans la prochaine année. Finalement, l'Office reste résolu à améliorer l'accessibilité du système de transport en utilisant tous les outils à sa disposition afin d'obtenir des résultats pour les personnes handicapées, notamment au chapitre du transport sécuritaire des aides à la mobilité et de la formation des employés de l'industrie des transports. Ces questions ont attiré beaucoup d'attention au cours de la dernière année, et c'est là une occasion importante pour l'Office et le Canada de faire véritablement avancer les droits des personnes handicapées relativement à ces aspects, notamment d'un point de vue international. Le règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées, RTAPH, est de renommée mondiale, et nous ferions un pas de géant si nous parvenions à offrir un système de transport plus homogène pour les personnes handicapées qui se rendent à l'étranger. À mesure que l'Office navigue à travers ces transformations, je me réjouis de pouvoir compter sur un effectif hautement professionnel de fonctionnaires et de membres nommés, sans qui cette période de changement et de renouveau aurait été impossible. En 2024, l'Office a été nommé parmi les meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale. Nous avons été reconnus pour notre engagement à créer un milieu de travail positif et inclusif, notre dévouement à offrir des avantages concurrentiels, des occasions de perfectionnement professionnel, ainsi qu'une culture de soutien en milieu de travail. France Peugeot. Contexte de travail de l'Office. Le secteur des transports est essentiel au succès de l'économie canadienne, et il constitue l'épine dorsale du commerce intérieur et international. En 2022 à 2023, d'importantes perturbations ont mis à mal les chaînes d'approvisionnement partout dans le monde en raison de la pandémie, de conflits de travail, de pénuries de conteneurs, des impacts des changements climatiques, et des conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Devant cet état des lieux, le gouvernement du Canada a formé en 2022 un groupe de travail national sur la chaîne d'approvisionnement, afin d'améliorer l'efficacité, la fluidité, la résilience et la fiabilité des chaînes d'approvisionnement canadiennes. Nous avons constaté une stabilisation importante en 2023 à 2024, et la chaîne d'approvisionnement a généralement bien fonctionné, en partie en raison d'une baisse de la demande pour des biens de consommation. Le système a dû réagir à quelques perturbations externes préoccupantes. Des feux de forêt en Alberta en mai, une grève de 13 jours dans des ports de la Colombie-Britannique en juillet, ainsi qu'un vortex polaire en janvier 2024 ont tous contribué à perturber le réseau ferroviaire. De tels événements révèlent la vulnérabilité des chaînes d'approvisionnement et l'importance d'investir dans des infrastructures et des processus résilients et durables. En 2023, le transport aérien de passagers au Canada est presque revenu au niveau d'avant la pandémie. Toutefois, Les compagnies aériennes canadiennes sont arrivées 40e au chapitre de la ponctualité sur les 46 pays qui comptent les plus grandes compagnies aériennes au monde, selon les données d'Aug sur la ponctualité. Ce pourrait être un facteur dans le nombre sans précédent de plaintes déposées auprès de l'Office, surtout celles concernant des perturbations de vol. Dans l'écosystème du transport aérien, les difficultés d'embauche et de formation du personnel continuent d'être signalées. Notons la pénurie de pilotes qui couvre depuis plusieurs années. Le problème a incité des compagnies aériennes à assigner leur nombre limité de pilotes à des vols moins fréquents effectués avec de plus gros avions, et il a été l'une des principales raisons du nombre de vols régionaux en déclin. Cela dit, dans bien des cas, parce que des aéronefs plus gros sont utilisés, le nombre de sièges passagers vacants sur des vols à destination et en provenance de petits et de moyens aéroports à travers le pays est en hausse. Finalement, l'année a été tumultueuse pour des transporteurs canadiens à très faible coût, comme le prouve le cas de Lynx Airlines qui a mis fin à ses activités en février 2024. En ce qui concerne l'accessibilité, il y a eu tout au long de l'année de nombreux incidents et problèmes importants dans les transports aériens. Il continue d'y avoir beaucoup trop de fauteuils roulants perdus ou endommagés, et beaucoup trop de problèmes d'assistance et de services inadéquats aux personnes handicapées. Il souffle également un vent favorable pour régler ces problèmes. Au Canada, deux comités parlementaires, soit le Comité permanent des transports, de l'infrastructure et des collectivités, et le Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées, se sont réunis pour discuter de l'accessibilité du réseau de transport aérien. À la fin de l'exercice financier, il a été annoncé que le ministre des Transports, Pablo Rodriguez, et la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, seraient les hôtes du premier sommet national sur l'accessibilité du transport aérien de mai 2024 au Canada, afin de donner suite à l'engagement du Canada à faire en sorte que les transports soient accessibles et libres d'obstacles d'ici 2040. L'Organisation de l'aviation civile internationale, OSI, a également désigné l'année 2024 comme étant l'année de la facilitation, et a annoncé un sommet mondial qui porterait essentiellement sur l'amélioration de l'expérience passager. L'un des principaux thèmes du sommet est l'accessibilité dans l'aviation civile internationale. Le Canada est un chef de file en matière d'accessibilité, et ces événements démontrent tant la volonté que l'occasion de collaborer à éliminer les lacunes dans l'accessibilité du transport aérien à l'échelle nationale et internationale, pour une harmonisation et une cohésion améliorées. Un système de transport efficace pour le Canada. L'un des principaux mandats de l'Office est de contribuer à rendre le système de transport efficace pour le Canada. La Loi sur les transports au Canada, loi, énonce la politique nationale des transports qui aiguille l'Office. Il y est précisé que la concurrence et les forces du marché sont les principaux facteurs en jeu dans la prestation du service de transport viable et efficace, mais qu'il peut être nécessaire d'adopter des règlements pour atteindre les objectifs des politiques publiques que la concurrence et les forces du marché ne permettent pas à elles seules d'atteindre. Transport ferroviaire. L'Office a été fondé en 1904 à titre d'organisme de réglementation en matière ferroviaire. Ce rôle continue d'être essentiel, car il contribue à l'exploitation efficace d'une industrie qui transporte chaque année des marchandises d'une valeur de plus de 380 milliards de dollars. En 2023 à 2024, nous avons connu une hausse importante des demandes pour des certificats d'aptitude, la construction de lignes de chemin de fer et des affaires connexes, ainsi qu'une augmentation du nombre d'appels par des expéditeurs et des municipalités à notre ligne d'assistance sur le transport ferroviaire. L'Office surveille le rendement du transport ferroviaire de marchandises au Canada. Délivre des certificats d'aptitude aux compagnies de chemin de fer de compétence fédérale et vérifie qu'elles respectent les exigences d'assurance minimale. Détermine les coûts ferroviaires, approuve la construction de lignes de chemin de fer, supervise la cessation d'exploitation de lignes, et calcule la valeur nette de récupération de lignes de chemin de fer. Fixe les prix d'interconnexion et calcule le revenu admissible maximal pour le transport du grain de l'Ouest. Règle les différends entre des compagnies de chemin de fer et des expéditeurs au sujet de prix ou de niveau de service, ainsi qu'entre des compagnies de chemin de fer et des particuliers ou des collectivités incommodées par le bruit et les vibrations ferroviaires, ou concernant des franchissements ferroviaires. Surveillez le rendement du transport ferroviaire de marchandises. En 2023 à 2024, le programme de surveillance ferroviaire de l'Office a continué d'évoluer. À partir de données publiques, l'Office surveille les problèmes de rendement et de service dans le secteur ferroviaire. Nous utilisons de telles données ainsi que les renseignements obtenus des compagnies de chemin de fer et des expéditeurs pour tenter d'évaluer la santé globale du système. Grâce à ces données, l'Office peut évaluer la ponctualité des services en général, et savoir quand des perturbations de service surviennent et en connaître l'évolution. Dans le cadre de ce programme de surveillance, l'Office vérifie également les volumes de grains et leur transport pour déterminer si le service fourni répond aux besoins du réseau de transport et de manutention du grain. Si les niveaux de service empêchent ce réseau de fonctionner efficacement, une enquête approfondie pourrait être nécessaire pour déterminer si cela est dû à des problèmes qui relèvent de la compétence des chemins de fer. Nous surveillons également les données relatives aux embargos pour vérifier que, lorsqu'une compagnie de chemin de fer invoque un embargo, il est correctement imposé, c'est-à-dire qu'il est ciblé, utilisé seulement en cas de nécessité et uniquement en dernier recours. Les données sur les embargos peuvent donner des indications et des détails sur les causes ou les répercussions particulières des perturbations de service observées, ainsi que sur les pratiques commerciales qui sont incompatibles avec les obligations du transporteur envers le système de transport et ses usagers. Voici les données précises que l'Office surveille. Les volumes de marchandises transportés par la Compagnie des chemins de fer nationaux, CN, et la Compagnie de chemins de fer canadien Pacific et Kansas City, CPKC. La différence des volumes de marchandises transportés entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Les données sur les services de transport du grain et le volume de grain tiré des rapports du Grain Monitoring Program et des rapports hebdomadaires de volume de grain de CN et de CPKC. Les rapports quotidiens et hebdomadaires publiés par la Transport Coalition. Les détails sur les embargos publiés par l'Association of American Railroads. Les données additionnelles obtenues du Carrefour de données et d'informations sur les transports, un produit du Centre canadien de données sur les transports. À l'aide de ces données, le personnel de l'Office a pu identifier les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et s'engager rapidement avec les intervenants pour favoriser des communications et des résolutions plus proactives. L'intervention a contribué à une réduction générale du temps de récupération nécessaire lors de tels incidents. L'Office a augmenté ses interventions liées à la surveillance du système en planifiant plus de rencontres informelles régulières avec différents intervenants du secteur ferroviaire, tels que CN, CPKC et des associations d'expéditeurs, afin de discuter des divers problèmes de service ferroviaire qui pourraient ne pas être évidents seulement à partir des données que l'Office surveille. Modèle d'établissement de coûts des compagnies de chemin de fer. Afin de répondre à ses obligations réglementaires en matière ferroviaire, l'Office tient à jour un modèle d'établissement de coûts pour les compagnies de chemin de fer afin d'estimer leurs coûts d'exploitation. Le modèle, basé sur les données obtenues des compagnies de chemin de fer, sert à diverses fins, par exemple, régler les différends sur les services ferroviaires et les prix. Fixer les prix d'interconnexion en vertu du règlement sur l'interconnexion du trafic ferroviaire. Calculer les coûts indirects des frais pour la construction et l'entretien des ouvrages de protection au franchissement ferroviaire. Estimer les conséquences des modifications possibles à la politique des transports et à d'autres mesures de réglementation connexes. Pour soutenir ces travaux, l'Office a calculé le taux d'amortissement pour 2023, CNR 2023-236, CPKCR 2023-235, le taux du coût du capital pour 2022, CNR 2023-168, CPKCR 2023-167, détermination relative au transport du grain de l'Ouest. Depuis sa fondation en 1904, l'Office a été saisi d'affaires entourant l'acheminement du grain de l'Ouest sur les marchés. La loi impose annuellement des obligations à l'Office qui doit rendre des déterminations pour soutenir cette activité. Le revenu admissible maximal est une forme de réglementation économique par laquelle CN et CPKC peuvent fixer elles-mêmes les prix de leurs services, à condition que le total des revenus tirés du transport du grain de l'Ouest demeure inférieur au plafond imposé par l'Office. Dans la détermination de cette année, R 2023-254, il a conclu que CN et CPKC avaient toutes deux dépassé leur revenu admissible maximal pour la campagne agricole 2022 à 2023. Selon la réglementation, l'excédent de leur revenu admissible, auquel s'ajoute une pénalité de 5%, doit être versé à la Western Grains Research Foundation. CN et CPKC ont dû payer respectivement une pénalité de $3,630,836 et de $3,537,877. Le tableau 1 présente d'autres détails sur le calcul du revenu admissible maximal. L'Office calcule également l'indice des prix composites afférents au volume pour une campagne agricole donnée. Cet indice est un facteur d'inflation appliqué au calcul du revenu admissible maximal. Il reflète plusieurs prévisions de coûts, notamment pour la main-d'œuvre, le carburant, le matériel et les achats en immobilisation. L'Office fonde son calcul sur l'examen et la vérification des données obtenues des compagnies de chemin de fer. En 2023, le calcul de l'indice R 2023-91 a montré une augmentation par rapport à la campagne agricole précédente de 12,11% pour CN et de 5,43% pour CP. Surtout en raison d'une hausse des prix du carburant et des coûts relatifs au matériel. Interconnexion. En 2023, le gouvernement a changé la loi pour mener un projet pilote de 18 mois dans les provinces des Prairies visant à repousser temporairement les limites d'interconnexion à 160 km. L'interconnexion est le transfert obligatoire du trafic entre deux compagnies de chemin de fer dont les prix sont réglementés, afin d'offrir davantage d'options aux expéditeurs qui n'auraient normalement accès qu'à une seule ligne de chemin de fer. L'interconnexion est normalement exigée jusqu'à 30 km d'un lieu de correspondance. Dans le cadre de ce projet pilote d'agrandissement des limites à 160 km, L'Office a calculé les prix de 2023 pour la nouvelle zone tarifaire d'interconnexion R2023 178 et les prix de 2024 pour toutes les zones tarifaires d'interconnexion R2023 237. Demande pour la construction de lignes de chemin de fer. Si une compagnie de chemin de fer entend construire une ligne de chemin de fer assujettie à l'article 98 de la loi, elle doit en faire la demande auprès de l'Office. Les demandes en matière d'infrastructure ferroviaire auprès de l'Office sont en hausse. Elles sont très complexes et ont d'importants impacts sur l'économie, l'environnement et les collectivités.